Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parlons Immo. Si vous êtes à table, il est midi. On est ravi d'être avec vous. On vous souhaite un bon appétit avec toute l'équipe de Radio Immo qui m'accompagne tous les samedis pour le 12-13h avec notre amie Bérénice de Villefloriot. Comment ça va, Bérénice?
Bonjour, ça va Sylvain et vous?
Et oui, moi je vais bien. Mais
vous
mieux,
êtes en
ça,
forme?
Mieux, ça serait de
la gourmandise.
Ouais, comme je le dis tous les samedis. En tout cas, les gourmands, ils sont déjà à table. Grégoire Daricot, notre super producteur. Comment ça va?
Je suis gourmand aujourd'hui, tout va bien.
Voilà, et bien sûr, le docteur Permin est avec nous pour justement parler du chantier du siècle. C'est Monsieur Éco-Rénovation chez Sofinco. Comment ça va, Laurent?
Merveilleusement bien.
Il est très en forme, notre Laurent. Au programme aujourd'hui, le marché de l'immobilier, bien sûr. On va parler de votre logement, de votre immobilier, un lieu où se croisent les propriétaires privés, les bailleurs sociaux, les investisseurs. Et pour en parler, on va justement recevoir un grand monsieur de l'immobilier qui est avec nous sur le plateau. Il s'appelle Michael Habitbol et il est le patron d'un groupe qui s'appelle Maurice Immobilier. On écoutera également nos auditeurs après avoir récolté leurs questions par SMS en envoyant IMO au 7-20-18. Et c'est avec vous, Bérénice Floriot, que nous verrons les questions de nos auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, on est ravis d'être avec vous et comme toutes les semaines, on va parler justement de ce qui nous a interpellés cette semaine. C'est quoi, Bérénice?
On va parler de la tempête Benjamin, vous savez, et de savoir de ce qui est prévu dans vos contrats d'habitation.
Eh oui,
gros. Parce qu'il y a eu des gros dégâts dans certaines parties de la France.
Ouais, comme quoi bien s'assurer, franchement, c'est toujours un pari gagnant. On parlera également rénovation énergétique avec vous, Grégoire.
Oui, mon cher Sylvain, avec Laurent Permas, on va vous parler du fameux artisan RGE pour reconnu garant de l'environnement et de son rôle de plus en plus important. Et puis dans notre chronique Maison Saine, Sylvain, on verra pourquoi l'humidité dans votre logement peut faire exploser votre facture énergétique. Et enfin, je vous proposerai un tour de France des biens coup de cœur. On ira à Montpellier et à Rouen.
Eh bien écoutez, c'est super. Et tout de suite, les infos à retenir avec vous, Bérénice. Quel est le programme des news de la semaine?
Les locataires HLM qui deviennent propriétaires au bout de 20 ans de leur logement gratuitement. C'est une proposition d'un député qui ne passe pas. Le ministre du Logement a annoncé un plan d'urgence pour le secteur. Et enfin, une famille qui risque de se faire expulser de sa maison à cause de ses décorations d'Halloween.
On va commencer avec cette idée qui a été imaginée en Absurdistan, hein. Une mesure hors sol du député.
Qui est député. C'est vrai.
Le député Philippe Jubin.
Et oui, si les locataires des logements sociaux devenaient propriétaires gratuitement de leur HLM au bout de 20 ans d'occupation.
Cadeau.
Alors avec quelques conditions quand même, qu'ils aient payé les charges et les loyers et qu'ils n'aient pas causé de problèmes de voisinage. C'est l'idée que le député Philippe Jubin a proposé mardi en commission des finances de l'Assemblée nationale. Proposition, on peut le dire, Sylvain, étrange de la part d'un homme de droite, hein, parce que c'est un républicain.
Oui, ça doit être un croyant, un très grand croyant.
Oui, c'est perdu. Ouais. Évidemment, de nombreuses réactions. Beaucoup se sont insurgés, par exemple, le président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, Sylvain Grataloup, qui a trouvé cette proposition honteuse. Pour lui, il n'est pas question que l'immobilier devienne un cadeau pour certains seulement, payé par l'ensemble des contribuables. Parce que je vous le rappelle, le loyer d'un logement social qui est modéré est payé en partie avec nos impôts. Donc si au final, le locataire devient propriétaire gratuitement au bout de 20 ans de location, ça entraînerait une terrible injustice sociale pour ceux qui sont dans le parc privé. Et je tiens à préciser quand même que dans ce parc privé, 2,8 millions de personnes ont fait la demande d'un logement social. Demande, il faut le dire, qui n'aboutira jamais, hein, pour la plupart. Donc, terrible injustice qui serait contraire de la méritocratie. Combien de personnes en France travaillent et n'arrivent pas à être propriétaires? Cette proposition, pour moi, est une insulte à leur égard.
Surtout que c'est également une atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution. On continue avec un plan d'urgence pour le logement qui devrait voir le jour, selon le ministre, tous vos ministres nommés de plein exercice, Vincent Jeanbrun.
Que vous allez rencontrer d'ailleurs très prochainement, Sylvain. Il a rappelé, oui, cette semaine, que la situation est catastrophique en France pour le logement. Il manque 1 million de logements, selon lui, hein, si ce n'est plus. Des milliers de personnes n'arrivent pas à trouver un logement, des familles, des étudiants, des travailleurs dont d'autres en ont un de logement, mais le loyer est une charge beaucoup trop lourde dans leur budget, faut penser à eux aussi. Bref, il faut beaucoup plus de logements en France. Le gouvernement souhaite donc mettre en place un plan d'urgence avec des mesures fiscales pour donner envie aux Français d'acheter un logement pour le mettre en location. Pourquoi, vous allez me dire, Sylvain? Eh bien parce que ça augmenterait l'offre de logement et ça ferait par conséquent baisser les loyers. Le plan d'urgence comprendrait aussi des simplifications. Alors, on n'a pas de détails précis à ce sujet, mais globalement, ce sera pour la construction de nouveaux logements. Ces mesures feront partie du budget 2026. Après, il faut qu'elles passent avec le budget.
Bien sûr, on termine très rapidement avec une histoire particulière qui se passe à Courcelles-lès-Lens, dans le Pas-de-Calais.
Oui, Sylvain, qu'est-ce que vous allez faire vendredi prochain ?
Je ne sais pas exactement, j'irai certainement à la pêche.
C'est Halloween. Sachez qu'une famille, justement, à Courcelles-lès-Lens, transforme chaque année depuis 30 ans sa maison avec des décorations incroyables et des animations. C'est vraiment devenu l'événement du coin à ne pas manquer. Alors, dimanche, c'était la soirée de lancement de cette année, sauf que ça a dégénéré, hein, puisque ça a quand même rassemblé plus de 300 personnes qui se sont rendues devant la maison pour voir les animations. Donc forcément, il y a eu des débordements, il y a eu des problèmes de circulation, des gens qui se sont un peu disputés. Il y a eu des plaintes, notamment des voisins. Résultat, lundi, un commissaire de justice mandaté par le bailleur, puisque la famille est en location, est venu pour dire à la famille, bah voilà, il faut absolument que vous cessiez ces animations, sinon le bail pourra être rompu. Eh bien,
il n'y aura plus de lapin.
Il y aura plus de lapin. Alors moi, j'ai regardé des petites vidéos, j'ai vu, il y avait un lapin maléfique qui se promenait avec une hache, qui courait après les gens, il y avait un Père Noël avec une tronçonneuse. Donc tout ça, c'est fini. En revanche, les décorations d'Halloween pourront rester.
Eh bien écoutez, un peu de baume au cœur dans ces animations. Merci Bérénice, et tout de suite, on va attaquer le chantier du siècle.
Sofinco présente
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Avec vous, Grégoire.
Allez, bonjour Laurent Permas.
Bonjour Grégoire.
Merci d'être avec nous, Laurent. Alors cette semaine, on s'intéresse à une figure incontournable de la rénovation énergétique, l'artisan RGE pour reconnu garant de l'environnement. J'en profite pour passer un petit coucou à notre ami Jean-Marie Bordry, il adorait cet acronyme. Trois lettres, Laurent, qu'on entend souvent, mais que signifie-t-elle vraiment pour vous, particuliers qui nous écoutez ? Pourquoi ce label est-il si important en 2025 ? Et surtout, qu'est-ce que ça change dans vos projets ? On en parle donc avec vous, Laurent. Qu'est-ce que signifie RGE.
Pour un samedi matin, c'est bien, hein, proche de l'appétit. Donc, c'est plein de questions. Grégoire, en fait, le label RGE, ça signifie reconnu garant de l'environnement. C'est un label officiel, délivré aux artisans. Donc, c'est le gouvernement qui le pose, qui sont formés, certifiés pour réaliser des travaux de rénovation énergétique. Alors, c'est quoi ces travaux ? C'est l'isolation, le chauffage, énergie renouvelable. C'est simple. Si vous voulez bénéficier d'aides publiques comme MaPrimeRénov, MaPrimeAdapt aussi, et les certificats d'économie d'énergie, les C2E qui sont là privés, eh bien vous devez passer par un artisan RGE, sinon vous n'aurez pas ces primes.
C'est une condition obligatoire. Bon, Laurent, c'est très bien que je vous ai sous la main parce que il y a une enquête qui a été récemment publiée, Opinionway pour Sofinco, publiée en octobre, et ces artisans RGE sont de plus en plus sollicités, c'est ça ?
Oui. En fait, ces chiffres sont très intéressants parce que l'artisan qui est tiers de confiance, en fait, 90% des artisans qui ont été interrogés ont l'intention de renouveler leur label RGE. Alors attention, il y en a 53 000 sur 500 000. Donc, vous voyez, il y a encore un gros travail de sensibilisation pour justement accompagner les Français et pouvoir compléter avec des aides. Donc, 74% d'entre eux et plus de la moitié de leur activité concerne déjà la rénovation énergétique. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. C'est devenu leur cœur de métier. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qu'ils disent au niveau des pros et de leurs clients. C'est notamment 71% des artisans estiment que les démarches pour obtenir les aides constituent un frein et 73% constatent que le manque de moyens pousse leurs clients à refuser ces devis. C'est trop compliqué et on le rappelle, les artisans montent les dossiers en fait de MaPrimeRénov et les C2E. Et donc pour eux, c'est un travail supplémentaire et c'est une complexité notamment aussi pour leurs clients.
Ah, c'est vrai qu'on en parle souvent dans notre chronique, Laurent. Le problème, c'est pas seulement les travaux ou les prix, mais c'est ce que vous dites, c'est la complexité du financement.
Absolument, c'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet et un vrai besoin d'accompagnement. Beaucoup d'artisans aimeraient pouvoir proposer à leurs clients une solution clé en main, l'espèce de point d'entrée unique, avec un montage de dossiers simplifié, une avance immédiate des aides, parce que c'est la trésorerie aussi que supporte l'artisan, et puis un crédit ou un paiement échelonné pour le reste, ce qu'on appelle le financer le reste à charge. Ouais. Et ça permet à l'artisan d'être garant de l'ensemble des dispositifs et pouvoir mener à bien en fait ce chantier.
Pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette étude ?
En fait, quatre choses. La première, en tout cas, c'est de choisir un artisan RGE. C'est indispensable pour accéder aux aides. On le rappelle jamais assez. Cette liste est notamment disponible sur maprimerénov.gouv ou France Rénov. Ne pas hésiter à lui demander s'il peut vous accompagner dans les démarches ou vous orienter vers un tiers de confiance, notamment un Mon Accompagnateur Rénov ou France Rénov. Anticiper le financement global et pas seulement le montant des aides. Attention, là aussi, l'artisan peut vous conseiller. Et puis, faire surtout un audit audits énergétiques en amont, c'est beaucoup plus précis qu'un DPE pour pouvoir prioriser vos chantiers et notamment l'impact pour baisser votre facture énergétique.
Ouais, on le voit bien, hein, derrière un bon artisan, il y a aujourd'hui bien plus qu'un chantier. Faites-vous accompagner. Merci Laurent.
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.
On revient dans quelques instants. On a pris une petite pause pour répondre aux questions de nos auditeurs. Avec vous, Bérénice de Bulforio, on va parler
de certains dégâts causés par la tempête Benjamin et de ce qu'on peut faire avec son assurance habitation.
Et nous aurons le plaisir ensuite de recevoir Michael Abitbol, le patron de Mauricie Immobilier. À tout de suite.
Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien les amis, voilà, si vous êtes à table, on vous souhaite un bon appétit dans ce week-end un peu pluvieux dans certaines régions de France, mais en tout cas, on est bien, on est là pour parler de votre logement. À tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur Sud Radio, dans Parlons Immo, on va parler justement de votre logement et on va répondre surtout à la question qui nous a été posée à vous, avec vous, Bérénice de Villefleurio.
Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne.
Et oui, les amis, ça vous concerne et ça vous concerne toutes les semaines avec un SMS que nous avons reçu, Bérénice.
Et oui, c'est Maxime qui dit « Bonjour, j'habite du côté de Royan, en Charente-Maritime, et avec la tempête Benjamin, mon portail a été complètement arraché par le vent, on a eu des rafales terribles et plusieurs de mes voisins ont eu aussi des dégâts. J'ai essayé de retrouver mon contrat d'assurance habitation, mais impossible de mettre la main dessus, et en plus, j'arrive pas à joindre mon assureur. Je suppose qu'ils sont débordés avec tous les sinistres. Je me demande si mon portail peut être pris en charge par mon assureur habitation et j'ai entendu parler de la catastrophe naturelle sur votre radio. Est-ce que ça change quelque chose si Benjamin est classé en catastrophe naturelle? Franchement, je ne sais plus quoi faire. Merci de votre aide. Alors, pour y répondre, on accueille notre expert, Tristan de la Martinière, président fondateur de Jiva. Bonjour Tristan.
Bonjour.
Alors Tristan, pour répondre à la question de Maxime, est-ce que le portail fait forcément partie de l'assurance habitation? Comment savoir?
Alors malheureusement, non, il ne fait pas forcément partie de l'assurance habitation. En fait, il y a deux conditions normalement qui doivent être remplies pour garantir le fait qu'il soit pris en charge. La première, c'est est-ce que la garantie événement climatique a été souscrite? C'est pas une garantie obligatoire. Et du coup, vérifier effectivement dans son contrat si on a bien souscrit cette garantie. La deuxième, c'est voir si le portail a fait partie, intégralement parlant, en tout cas d'une déclaration à l'assureur, ou s'il n'est pas exclu de facto dans les garanties comme un bien immobilier à part entière.
D'accord, donc pour cela, il faut qu'il vérifie son contrat en fait, il faut le retrouver,
il faut qu'il appelle. Ouais. Il n'y a pas de choix, il faut vérifier son contrat. Donc, je rappelle que les contrats, c'est deux parties très importantes. Les conditions particulières, c'est là où vous avez votre adresse, le prix, etc., toutes vos données personnelles. Et puis les conditions générales, qui sont généralement le gros document de 60 à 80 pages, qu'on n'a pas très envie de lire, mais qui sont in fine les règles du jeu, j'ai envie de dire, de l'assurance, et qui précise justement ce qui est pris en charge et ce qui n'est pas pris en charge.
Donc en fait, vous conseillez de lire ce contrat pour être sûr et certain qu'on n'oublie rien et pour prévoir en tout cas.
Alors, on joue toujours mieux à un jeu quand on a lu la règle du jeu, c'est vrai. Donc je ne peux que conseiller de lire les conditions générales. À défaut, renseignez-vous auprès de votre assureur. C'est son rôle que de vous accompagner, de vous conseiller sur ces sujets-là.
Alors, la tempête Benjamin pourrait-elle être classée en catastrophe naturelle? Et qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça impliquerait, justement, concrètement, pour l'assuré, ici, pour Maxime, par exemple?
Alors, elle pourrait être catégorisée en catastrophe naturelle. Hein. Je rappelle que c'est l'État qui décide si un événement est catégorisé catastrophe naturelle ou non. Ça change pas mal de choses. La première chose, c'est, je vous ai dit en préambule, qu'il fallait vérifier si la garantie événement climatique a été souscrite ou non. La garantie catastrophe naturelle, elle est obligatoire dans le contrat d'assurance habitation, donc tout le monde l'a. Donc ce sujet-là de savoir si la garantie est présente ou non, il n'existe pas. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, on va pouvoir indemniser certaines parties. Vous parlez du portail, on peut parler des dépendances, on peut parler du mobilier. Certaines parties de la maison qui sont considérées comme immobilières de manière plus facile sur de la garantie catastrophe naturelle à partir du moment où il y a un arrêté de catastrophe naturelle qui a été pris. Maintenant, deux choses à savoir quand même. Hein. La catastrophe naturelle en tant que telle, c'est un événement qui est à la discrétion de l'État. Hein. Donc C'est lui qui décide si oui ou non cet événement fait partie d'un événement catastrophe naturelle. Et puis, je dirais que la deuxième chose, c'est que souvent les franchises en catastrophe naturelle sont assez élevées. Hein. C'est l'État qui le détermine de nouveau. C'est 380 € systématiquement,
d'accord,
qui devient plus cher que les franchises naturelles des contrats d'assurance habitation.
Très clair. Juste rapidement, en deux mots, Tristan, quand est-ce qu'on saura si Benjamin est reconnu catastrophe naturelle ?
En fait, le processus, c'est les mairies qui sont concernées, qui font la demande derrière auprès de l'État.
Ouais.
Ensuite, il y a une période d'analyse.
D'accord.
Et globalement, ça met entre 4 et 12 semaines avant d'être, avant d'être déterminé.
4 à 12 semaines. Merci beaucoup, Tristan de la Martinière, président fondateur de Jiva.
Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne.
Et tout de suite, c'est l'heure de recevoir notre invité qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Michaël Abitbol.
Bonjour Sylvain.
Alors, je suis ravi de vous recevoir, Mimi, je vous connais depuis très longtemps. Vous êtes le fondateur du réseau Maurice Immobilier qui regroupe 14 agences immobilières. Et on va voir avec vous les tendances, les prix, les bons plans, les conseils pratiques pour acheter, vendre ou louer. Alors, question d'abord, comment vous jugez la relance du marché immobilier et quels sont les grands signaux que vous, en tant que professionnel, vous observez ?
Alors nous, aujourd'hui, sur le marché de l'immobilier, on voit un petit regain depuis quelques mois, depuis la baisse des taux. On voit qu'il y a un regain d'intérêt de la part des acheteurs. On a quand même une demande qui est beaucoup plus croissante qu'auparavant. Depuis 2-3 ans, on a vécu une période assez difficile avec un volume de transactions qui a énormément baissé. Là, depuis quelques mois, on voit un regain qui est quand même assez important. Maintenant, ça reste fragile. Il faut prendre en considération que les acheteurs aujourd'hui ont l'embarras du choix. Ils se laissent vraiment le temps de trouver des produits qui répondent à leurs demandes en termes de prix et de caractéristiques. Donc, il y a un regain, mais le regain n'est pas encore assez dynamique pour parler de regain général.
Est-ce que cette baisse, cette crise qui a touché également la transaction sur le marché sur lequel vous êtes, ça a été uniquement la hausse très brutale des taux qui a entraîné cela, ou il y a plutôt un contexte général morose économiquement ?
Moi, je pense que c'est un contexte général. La hausse des taux a joué pour beaucoup dans la baisse de volume de transactions.
Vous êtes d'accord, il y a un effet mécanique. Hein, dès que ça baisse les taux, la vente se relance.
Bien sûr.
Bah oui.
Là, je pense que la baisse des taux y a été pour beaucoup. Mais l'instabilité gouvernementale qui a touché l'économie en général joue aussi un facteur assez important dans la tête des gens pour aujourd'hui avoir accès à la propriété.
Vous voulez dire qu'en fait, les gens, parce qu'il y a une morosité ambiante, ils préfèrent rester chez eux, ils continuent à louer au lieu d'acheter alors qu'ils voulaient acheter. Les porteurs de projets ont révisé leur programme, quoi, en fait.
Alors, moi, je pense qu'ils sont nés sur un marché attentiste.
Oui.
Il y a de la transaction, il y a des transactions qui se réalisent, mais aujourd'hui, les gens, pour aujourd'hui avoir accès à la propriété, veulent que toutes les conditions soient réunies.
Bien sûr.
Donc,
bien sûr. Alors, justement, Michaël Abitbol, c'est qui achète en France aujourd'hui ? C'est quoi le profil ?
On a différents profils. On a tout type de profils. On a des acheteurs traditionnels qui sont prêts aujourd'hui à se positionner, mais ils veulent se positionner à des prix qui restent cohérents.
C'est quoi l'acheteur traditionnel ? C'est
l'acheteur lambda.
C'est le primo-accédant ?
Le primo-accédant, l'acheteur qui aujourd'hui a besoin de s'agrandir parce qu'il a grandi sa famille.
Bien sûr.
On a aujourd'hui une clientèle étrangère qui est friand d'acheter sur Paris. Nous, on est en train de développer l'immobilier de luxe dans notre groupe. Et on a aujourd'hui une forte demande croissante de la part des étrangers qui veulent acheter des pieds-à-terre sur Paris. Donc, c'est tout type de clients aujourd'hui qui recherchent d'avoir accès à la propriété sur le marché parisien.
Bien sûr.
Mais...
Et sur le marché national, bien sûr, dans les grandes agglomérations, un peu partout dans les villes de France. Alors justement, vous savez, Michaël, les usages ont changé beaucoup. Hein,
bien sûr.
Et quand on est, nous, par exemple, les journalistes qui sont indépendants, sont souvent des auto-entrepreneurs, il y en a de plus en plus.
Oui.
En France, il y a même un statut qui a été créé pour eux. On est de moins en point, vous savez, comme dans la pub CDI, CDI, CDI.
Oui.
Je rêve CDI, je mange CDI. Aujourd'hui, est-ce que les banques ont évolué ? Et j'ai envie de vous dire, voilà, quand on est entrepreneur, un start-upper ou un jeune auto-entrepreneur, est-ce qu'on peut encore acheter ? Est-ce que les banques, aujourd'hui, ont révisé un peu leur ratio là ?
Alors, les banques, on peut bien évidemment acheter quand on est entrepreneur ou auto-entrepreneur. La seule chose, c'est que les banques vont être un peu plus vigilantes et vont demander des bilans, vont demander trois dernières années de bilan.
Donc, un auto-entrepreneur, qu'on se comprenne bien,
oui.
La première année, même s'il cartonne en honoraire, il ne pourra pas acheter avant les trois premières années d'exercice.
Exactement, ce que va demander en général
alors
le banquier.
Alors qu'un salarié, s'il a fait six mois...
Il va faire une moyenne sur les trois ans
bah oui.
Et il va demander aujourd'hui minimum 3 ans de bilan pour pouvoir se faire une moyenne de à peu près ce que gagne l'auto-entrepreneur sur les 3 ans et là, pouvoir lui donner accès à la propriété en lui donnant un crédit.
Ouais, tandis qu'un salarié, lui, s'il a 6 mois de salaire minimum...
Exactement, voilà, je pense qu'un salarié, dès qu'il dépasse sa période d'essai, il a la possibilité de pouvoir accéder beaucoup plus facilement au crédit.
Alors justement, une dernière question, et vous restez avec nous, parce qu'on a une autre partie d'entretien et de questions à vous poser. C'est quoi le critère le plus important et le plus demandé pour les acheteurs aujourd'hui ?
Aujourd'hui, les gens, ils veulent un bon rapport qualité-prix. C'est ça le plus important.
Bah
c'est
oui.
qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est ce que je dis depuis de nombreuses années, c'est une question d'offre et demande. Quand vous avez beaucoup d'offres sur le marché et très peu de demandes, automatiquement, les gens ont l'embarras du choix. Donc aujourd'hui, pour vendre, il faut être au prix et il faut que les caractéristiques du produit qu'on vend répondent aux attentes des clients.
Et oui, ça, je crois que c'est vraiment une vertu essentielle, rapport qualité-prix et l'espace, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, le mètre carré coûte très cher, que ce soit à Paris, mais aussi dans toutes les villes de France. Merci, Michaël Abilbol, vous restez avec nous.
Bien sûr,
on va continuer notre entretien et on se retrouve dans quelques instants.
Sud Radio, parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien les amis, vous êtes sur Sud Radio et dans votre émission du week-end Parlons Immo, 12h, 13h, tous les samedis pour parler de votre immobilier. Et de retour justement pour la deuxième partie de notre grand entretien, il est resté avec nous, Michaël Abitbol, le patron de Mauricie Immobilier. Ensuite on s'interrogera avec vous Grégoire sur avoir une maison saine.
Oui mon cher Sylvain, et on va surtout regarder quel est le lien entre le logement humide et votre facture d'électricité.
Merci Grégoire. Alors, merci Michaël Abitbol d'être resté sur le plateau. Je rappelle que vous êtes le patron du groupe Maurice Immobilier. Alors les amis, Maurice, M-O-R-I-2-S.
Exactement.
Voilà, extrêmement ingénieux comme nom, bravo. Le marketing chez vous, ils sont plutôt au top. Alors, combien de temps ça prend pour vendre un appartement, une maison aujourd'hui ?
Alors les délais ont été rallongés aujourd'hui. Pour vendre un appartement, il faut compter environ 2 mois. Auparavant, on avait tellement de...
C'est une tendance nationale, un peu partout.
C'est une tendance, en tout cas chez nous, aujourd'hui, ce qui est représentatif sur le marché parisien proche banlieue,
oui.
C'est que ça prend plus de temps que prévu. Il faut compter entre 1,5 mois et 2 mois aujourd'hui pour vendre un logement.
Alors, le bon plan de Michaël Abitbol, c'est quoi le conseil pour bien vendre et vendre vite ?
Alors, moi, c'est ce que je dis souvent à mes vendeurs. Aujourd'hui, pour bien vendre, il faut être au prix. Aujourd'hui, les gens qui sont prêts à mettre leur appartement à des prix plus cher que le prix du marché, ont du mal à les sortir parce qu'il y a tellement d'offres sur le marché qu'aujourd'hui, si vous voulez réellement, si vous avez un vrai projet de vente, je pense qu'il faut être au prix du marché et respecter aujourd'hui la demande des acheteurs. Pardon.
Alors justement, la petite question qu'on nous pose, et avec Bérénice, on en parle régulièrement sur Sud Radio comme sur Radio Immo. Y a-t-il justement la possibilité de négocier lorsque, par exemple, il y a une réelle décote, s'il y en a, sur les logements qui sont pas super bien noté au diagnostic de performance énergétique. C'est vrai ?
Oui. Il y a aujourd'hui une possibilité de négocier parce que ça demande des travaux qui sont assez importants.
Combien ? Donc,
ça demande un coût de rénovation.
5%, 10% d'écart. Comment on peut négocier ?
Je pense que on peut négocier entre d'environ 5% du prix de vente quand vous avez un logement aujourd'hui qui est mal noté en termes de DPE.
Je vais prendre un exemple.
Oui.
D'accord ? Il y a 7 lettres énergétiques. Là,
oui.
Ça va de A à...
De A à G ou F.
Non, c'est M et G. Alors G, on sait que c'est impropre à la location, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus louer.
Exactement.
Un appartement qui est classé G. Voilà, j'ai un appartement que je veux vendre, il est classé F. Plutôt mal noté.
Oui.
Je vais le vendre. Et est-ce que moi, si je veux l'acheter, je veux faire une bonne opération, disons, je vais peut-être faire un coup un peu sympa. Je peux espérer une négociation quoi ? 5%, 10%
on peut espérer une négociation entre 5 et 10%.
Mais il faut faire les travaux.
Il faut faire les travaux. Donc ça prend du temps.
Okay.
Les gens aujourd'hui, des fois, ne sont pas calés en termes de travaux. Et donc c'est pour ça que les gens en général qui ont des mauvais DPE ne font pas les travaux parce qu'ils n'en ont pas les compétences.
Est-ce
donc ils préfèrent négocier leur prix.
Alors,
et
est-ce
laisser
que c'est
des gens
compétents pour vous, le professionnel.
Bah, nous, en tant que professionnels, pour des clients qui souhaitent faire de l'investissement locatif et qui veulent faire des rénovations, ça peut être intéressant pour un client parce qu'il va toucher le prix, l'appartement à un prix moins élevé et ça lui laisse une opportunité de marché.
Alors, merci pour la transition, justement. Est-ce que l'immobilier, honnêtement, est-ce que c'est toujours, avec toutes celles et ceux qui nous écoutent,
oui.
Les Français de France et de Navarre, est-ce que c'est toujours aussi rentable ?
Oui. L'immobilier, ça reste une valeur refuge.
C'est sûr.
Oui, moi, contrairement au milieu de la bourse, contrairement au milieu financier, aujourd'hui, l'immobilier reste une valeur sûre. Il y a des cycles, il y a des hausses, il y a des baisses. Mais si on regarde l'immobilier depuis 30 ans, il a toujours évolué et les prix ont toujours monté. Donc je pense qu'aujourd'hui, faire de l'investissement immobilier, que ce soit pour une résidence principale ou en investissement locatif, ça reste quelque chose de rentable.
Gagnant, ok.
Voilà.
Sur la durée, c'est important en fait.
C'est important parce que ça vous permet de capitaliser quand vous faites des des investissements locatifs ou quand vous achetez une résidence principale et vous de constituer un petit patrimoine.
Alors vous, chez Maurice, vous êtes très branché innovation, communication, vous êtes assez bon là-dessus. Justement, quand on est agent immobilier nouvelle génération, quand vous proposez à vos clients des innovations, alors là, il y a pléthore, hein, c'est incroyable, on nage dans l'émulation à l'heure du tout digital. On fait comment pour rester visible ?
Aujourd'hui, ce qui est primordial aujourd'hui dans le milieu de l'immobilier, c'est les réseaux sociaux. Parce que la nouvelle génération aujourd'hui est greffée à son portable. C'est une obligation. C'est quand je dis que c'est une obligation. Aujourd'hui, nous, on vend des appartements grâce à nos vidéos. Donc, on essaye de poster au maximum tous nos appartements à la vente sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les acheteurs se positionnent directement via les vidéos qu'ils regardent sur les réseaux sociaux. Donc, se digitaliser aujourd'hui dans le monde de l'immobilier, dans le monde dans lequel on vit, c'est primordial pour durer.
Merci beaucoup, Michael Abilbol. Je rappelle que vous êtes le président du groupe Maurice Immobilier. Oui. Il suffit simplement de taper Maurice, tonton Maurice. Voilà,
Maurice.
M-O-R-I-2-S pour retrouver notre ami Michael Abilbol. Voilà, merci Michael Abilbol.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Restez avec nous parce qu'on a une grande question à vous poser à la fin de l'émission.
Avec plaisir.
Et il est temps maintenant, les amis, de parler de la qualité de l'air, mais pas que de la qualité de l'air, mais de l'humidité dans votre logement. Parce que l'humidité est un facteur qui dégrade non seulement votre santé, mais également peut améliorer, si vous faites les effets curatifs, améliorer la rentabilité et la valeur de votre patrimoine. Ça sera avec vous, notre ami Grégoire Daricot.
Sud Radio, Parlons Immo, Maison Saine.
Voilà, corpo sano, vous savez, avoir un corps sain, c'est aussi avoir une maison saine, chère à notre cher Edouard David qui est avec nous. Et avec vous, Grégoire Daricot, on va parler justement de la qualité de l'air, mais pas que, également de les problématiques d'humidité qui sont le fléau dans nos habitats.
Et oui, mon cher Sylvain, au programme, une chronique qui vous aide à mieux respirer, mieux vivre et parfois même mieux économiser. Aujourd'hui, on va parler chauffage, confort et humidité et surtout de ce lien méconnu entre l'humidité dans un logement qui peut faire exploser votre facture énergétique. Alors pour nous l'expliquer simplement, j'ai le plaisir de recevoir Edouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Edouard.
Bonjour Grégoire, bonjour à tous.
Alors Edouard, première question, elle est très directe. Est-ce que c'est vrai qu'un logement humide consomme plus d'énergie pour se chauffer ?
Oui, clairement, et c'est souvent sous-estimé. On sait qu'un air humide donne une sensation de froid, même si le thermomètre affiche parfois 19 degrés. Résultat, on pousse le chauffage à 21, voire 22 degrés, juste pour se sentir bien. Mais chaque degré supplémentaire, c'est environ 7% de consommation en plus.
Oui, c'est ça. Moi, si je passe de 19 à 20 degrés, je consomme quoi, 15% de plus ?
Exactement. 2 degrés de plus, ça peut représenter 15% de chauffage en plus. Pour une facture moyenne autour de 1 500 € par an, ça veut dire 225 € de surcoût. Juste pour compenser l'humidité dans l'air, pas un vrai besoin thermique.
Mais pourquoi est-ce qu'on a plus froid dans un logement humide, même si la température, en fait, elle est bonne ?
Parce que l'humidité ralentit l'évaporation naturelle de la transpiration, ce qui donne une sensation de froid et d'inconfort. Et au-delà de l'air, les murs humides, eux aussi, posent problème. Ils perdent leur pouvoir, donc isolant. Un mur humide conduit davantage la chaleur vers l'extérieur, donc vous chauffez, mais pour rien.
En fait, ce que vous dites, c'est que c'est un cercle vicieux. Plus il fait humide, plus on chauffe, plus on consomme, et souvent, l'humidité, elle reste là.
C'est ça Grégoire, tant qu'on ne traite pas la cause de l'humidité, on ne résout rien et le problème tourne en boucle. Plus c'est humide, plus on a froid, plus on chauffe et plus on consomme. On augmente sa facture, on abîme son logement et parfois même on met sa santé en danger parce que l'humidité va favoriser l'apparition de moisissures et d'acariens.
Est-ce qu'il y a des signes, Edouard, qui doivent alerter nos auditeurs, des indices qu'ils chauffent trop à cause justement de cet excès d'humidité ?
Il y en a plusieurs, notamment une sensation de froid, comme je vous l'ai dit, persistante, hein, même quand on chauffe à 20 ou 21 degrés, des fenêtres qui sont embuées ou de la condensation, même le matin, des murs froids au toucher, vous savez, une peinture qui peut s'écailler, on peut s'en rendre compte, et bien sûr une facture qui grimpe sans raison apparente. Hein.
Allez Edouard, un petit mot de conclusion pour nos auditeurs toujours.
Oui, chauffez moins, mais mieux. Avant d'ajouter un radiateur ou de monter le thermostat, demandez-vous vraiment si le vrai problème ne vient pas de l'humidité. On sait qu'un logement sec, c'est un logement plus confortable, plus sain et plus économique.
Merci beaucoup Edouard David. Et pour toutes celles et ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à parcourir le site internet maison-saine.fr.
Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine.
Merci Grégoire et merci Edouard David. Vous êtes sur Sud Radio dans votre émission Parlons Immo tous les samedis de 12h à 13h. Une petite pause et on va se retrouver juste après pour la dernière partie de notre émission. Au programme, le Tour de France et bien coup de cœur de la rédaction. On va partir à Montpellier, ensuite à Rouen. Vous restez avec nous, on se retrouve tout de suite après.
Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Eh oui les amis, parlons immo, on parle de votre immobilier, de votre logement, de tous les problèmes que vous avez au quotidien, mais aussi des solutions, et c'est précisément pour ça qu'on est avec vous tous les samedis de 12h à 13h dans votre émission sur Sud Radio, qui, je le rappelle, est rediffusée tous les mardis à midi sur Radio Immo également. On va maintenant parler tout de suite des coups de cœur de la rédaction, puisqu'on va faire un petit tour de France, Brégoire.
Oui, mon cher Sylvain, on va commencer par le sud de la France pour ce premier bien qu'on vous propose avec notre partenaire Basile, direction Montpellier. Je vous propose un appartement de 75 mètres carrés entièrement rénové, un appartement qui se situe au troisième étage d'une résidence qui allie charme de l'ancien et prestations modernes, nous dit l'annonce. Il se compose d'une entrée et d'un salon lumineux avec deux grandes fenêtres qui donnent sur de petits balcons. Un espace de 30 mètres carrés également doté d'une cuisine ouverte et entièrement équipée. Ensuite, un très beau couloir qui dessert deux chambres et une salle de bain. Un appartement qui est très performant, hein, puisque vous disposez d'un chauffe-eau thermodynamique, du double vitrage. L'électricité a récemment été refaite, ainsi que l'isolation. Donc on a un joli diagnostic de performance énergétique de B, ce qui est une très bonne note. Enfin, l'appartement, il est proposé au tarif de 298 000 euros sur le site donc de Basile.
Et on peut le financer donc ?
Avec un apport de 20%, soit 57 800 euros. Un emprunt sur 25 ans à 3,2%. Vous avez une mensualité à 1121 euros, mon cher Sylvain.
Ouais, je suis sûr que si on négocie, on peut trouver encore un meilleur taux. Un autre bien, direction la Normandie.
Oui, on va à Rouen. Là, je vous propose un appartement de luxe qui est à vendre en plein centre-ville piéton de la ville de Rouen. Jusque-là, rien d'extraordinaire, si ce n'est son histoire, qui est très riche. Vous allez aimer ça, mon cher Sylvain. Notre appartement, il fait 305 mètres carrés. Il a été commandé au XVIIe siècle par un riche armateur de la ville. Il est passé ensuite de main en main jusqu'à être racheté par l'oncle de Guy de Maupassant. L'auteur du Horla, de Boule de Suif ou de La Parure, y séjourne régulièrement parce que Guy de Maupassant étudie à l'école catholique d'Yvetot, mais il en a été renvoyé car il s'amusait à écrire des petits mots d'amour et des vers sur les murs de l'école, explique l'agent immobilier. Donc ensuite, Guy de Maupassant poursuit son enseignement au lycée Corneille à deux pas de là. C'est pour ça qu'il a fréquenté la demeure de son oncle. Un appartement qui coûte 835 000 euros, mais nous dit l'agent, 835 000 euros pour vivre l'histoire de France.
Mais pourquoi pas. Merci Grégoire. Justement, avant la grande question, puisque je profite de votre présence, Michaël Habitbol, on a une grande question qui est posée par les auditeurs. Vous savez, ils font un SMS, ils tapent IMO au 7 20 18. Mais avant cela, je voudrais vous poser deux questions très importantes. Tout à l'heure, on a vu que la rénovation énergétique, c'était un des leviers pour pouvoir faire de bonnes opérations, on peut le dire.
Exactement.
Moi, j'ai une question très précise. On a beaucoup d'auditeurs qui ont galéré avec des artisans, avec des gens qui ont promis monts et merveilles, et notamment un ou deux qui s'est fait avoir avec la pompe à chaleur à 1 euro, qui était une grosse arnaque. Comment on fait pour se prémunir de cela ?
Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire appel à des conseils et ne pas aller vers n'importe quelle entreprise dans ce genre de domaine.
Comment vous faites, vous, en tant qu'agent immobilier ? Vous avez une équipe de travaux ?
Personnellement, on ne travaille pas avec ce service de pompe à chaleur au sein des appartements, parce que comme on vend souvent des logements, on n'a pas besoin d'avoir...
Mais plus généralement, pour les travaux, vous faites comment ?
Nous, on a aujourd'hui des entreprises agréées qu'on propose, avec qui on a déjà fait des chantiers, où il y a eu des rénovations globales qui ont été faites à l'intérieur des appartements. Et donc là, on est en train de proposer à l'intérieur de nos agences un service après-vente de rénovation et de home staging pour nos clients, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est quelque chose de très important.
C'est quoi le home staging ?
Home staging, c'est de tout simplement de pouvoir voir en 3D ce qu'on peut faire d'un appartement avant les travaux. Et donc les gens puissent automatiquement se rendre compte de ce qu'ils peuvent avoir avant de faire les travaux, tout simplement.
D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une application qui existait, qui est de l'IA, qui est disponible.
Exactement.
On peut passer avec son appareil photo et ça met des meubles. Exactement. C'est incroyable.
Même quand aujourd'hui vous travaillez avec ChatGPT, vous envoyez une photo comme ça d'un salon à rénover, vous dites je veux le rénover avec un goût haussmannien et un goût ancien ou un goût moderne. Aujourd'hui, il est capable, ChatGPT, de vous sortir
de vous
une photo.
Rénové
en 3D avec une rénovation meublée et agencée.
Alors on nous pose plein de questions, justement, forcément vous êtes tous en appétence sur l'immobilier, on peut dire des choses comme ça. C'est quels seraient les bons plans que lorsqu'on veut faire de l'immobilier, qu'on veut acheter de l'immobilier, soit pour placer, soit pour trouver sa résidence principale, c'est quoi les quelques conseils, très très pratiques que vous donneriez à nos auditeurs ?
Moi aujourd'hui, ce que je donnerais surtout comme conseil, c'est d'acheter aujourd'hui dans les banlieues limitrophes à Paris, parce qu'on s'aperçoit que les prix sont en train d'exploser. Nous on a 6 agences aujourd'hui en banlieue limitrophe, et c'est nos meilleures agences, c'est nos agences pilotes, où aujourd'hui tous les gens qui sont dans des arrondissements limitrophes à toutes ces banlieues sont prêts à dépasser la frontière, parce que les prix sont beaucoup plus intéressants et sont, des fois, on passe du simple au double par rapport à un arrondissement parisien.
Ah oui, carrément. Donc,
ah oui. Aujourd'hui,
je peux acheter 4 000 euros et je fais 2 km et je passe à 8 000.
Exactement. Aujourd'hui, moi, j'ai une agence à Saint-Ouen, qui est une banlieue limitrophe à tout le marché du 17e, 18e, et on se rend compte qu'on a des prix qui avoisinent les 7 000, 7 500 euros du mètre, alors que dans le 17e, dans le beau 17e, aujourd'hui, dans les Batignolles ou dans le beau 17e, côté Courcelles-Monceau, on est autour de 13 000, 14 000 euros du mètre. Donc, il y a des gens aujourd'hui, pour avoir des espaces plus grands, pour avoir des petites maisonnettes,
ils sont prêts à
dépasser la frontière.
Alors, vous restez avec nous, Michael Abitbol, justement, on va vous poser justement la grande question. Et cette semaine, Bérénice, on nous a posé une question sur les potentiels mauvais placements que l'on pourrait faire en immobilier et surtout perdre beaucoup d'argent. Je crois que vous avez même une anecdote.
Oui, peut-on perdre beaucoup d'argent dans l'immobilier? Parce qu'on entend souvent dire que la pierre, bon, bah, c'est le placement sûr. Michael Abitbol, vous avez dit tout à l'heure que c'est la valeur refuge, et oui, c'est vrai, par excellence. Les Français en plus aiment acheter, mais l'immobilier n'est pas toujours un long fleuve tranquille, même quand on a les moyens. La petite info que j'ai, c'est celle de Robbie Williams, le célèbre chanteur britannique. En 2020, en pleine pandémie, il achète une magnifique propriété près de Genève. Bon, pour la bagatelle de 31 millions d'euros.
Ah, quand même.
Bon, c'est une star, c'est une star. Donc voilà. Bon, il la revend là récemment. Et devinez combien il la revend ? 17 millions.
Ah, d'accord.
Donc il a perdu 14 millions d'euros. 14 millions d'euros partis en fumée. Même pour une pop star internationale, ça fait mal. Donc la question, bon, c'est un cas extrême, hein, mais la question se résume à justement, est-ce que c'est possible de perdre beaucoup d'argent ? Est-ce que ça peut arriver à tout le monde ? Quelles sont surtout les erreurs à éviter pour ceux qui nous écoutent, qui ont acheté alors des biens évidemment moins chers, mais si on achète par exemple un bien 400 000 euros, est-ce qu'on peut se retrouver à le vendre 200 000 euros quelques années plus tard? Comment se prémunir de ces risques?
Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure que c'était l'investissement le préféré des Français, un investissement
sûr.
Oui,
l'investissement immobilier reste.
Mais il y a quand même des risques.
Il y a toujours des risques, comme dans tout. Maintenant, on n'a jamais vu le marché s'effondrer, perdre 50% sur le marché français aujourd'hui dans l'immobilier. Donc après, il y a une question de timing. Il y a des périodes où l'immobilier est en forte hausse et il y a des périodes où l'immobilier est en baisse. Comme je disais tout à l'heure, il y a des cycles. Et je pense que s'entourer de professionnels aujourd'hui de l'immobilier lorsque vous faites un achat peut vous permettre d'éviter de faire des erreurs.
Et est-ce qu'il y a une question de timing aussi, peut-être pas s'empresser de vendre, attendre un peu quand on voit que les prix ont baissé, on se dit que ça va peut-être remonter.
Il y a des périodes. Nous, les périodes avant Covid, on était sur des prix qui étaient en forte hausse avec énormément de demandes, donc automatiquement les prix ont monté de jour en jour. Aujourd'hui, étant donné qu'il y a plus d'offres sur le marché, on se rend compte que les prix aujourd'hui ont stagné, on est en légère baisse et ça stagne. Donc aujourd'hui, c'est une bonne période pour vendre si on a un vrai projet de vente. Mais on n'est pas dans une période où les prix sont en folie, tout simplement.
Et alors, juste, je pense là, alors pas à ceux qui occupent leur logement, pas aux propriétaires qui achètent pour vivre dedans, mais aux propriétaires qui achètent un logement pour le louer. Et il y en a un certain nombre en France. Peut-être le conseil, c'est qu'il ne faut pas que ce soit de l'argent dont ils ont besoin, en fait. C'est vraiment... Parce que si c'est le cas, ils vont se dire bah tiens, il faut que je vende absolument à cette date. Enfin, en gros, faut pas avoir de pression pour la revente. C'est ça que je veux dire.
Les gens en général qui font des investissements locatifs, en général, ils cherchent à capitaliser. Ils ont un petit apport, et en général, le montant du crédit est remboursé par le montant du loyer qu'ils perçoivent. Donc, c'est pas forcément des gens qui attendent de la vente de leur logement pour pouvoir avoir besoin de cette somme d'argent. Mmh. C'est des gens plutôt qui investissent un petit apport pour pouvoir capitaliser et avoir un patrimoine, une retraite avec le montant du loyer qu'ils vont percevoir à la fin de leur crédit.
Et qui s'endettent pour acheter.
Exactement, ils s'endettent et ça leur permet de pouvoir capitaliser. C'est important de capitaliser, de créer un petit patrimoine. Donc,
une espèce de crédit inversé finalement.
Exactement.
On vous prête de l'argent pour acheter un bien et au lieu de payer un loyer ou même dans l'investissement, ça prend en charge peut-être 50%, 60%, 70% de la prise en charge
du loyer
de la banque. Quoi.
Ce qu'il faut, c'est essayer d'autofinancer en ayant le montant du loyer
qui est supérieur à la mensualité du crédit. Voilà. Ça, c'est possible, ça,
oui,
Michael,
c'est
de
possible
le faire
d'avoir un montant de loyer supérieur à la demande de crédit. Et ce qu'il y a d'intéressant quand c'est comme ça, c'est que ça vous permet aussi de rentrer la taxe foncière et les charges de copropriété.
Oui, parce qu'il y a des taxes quand on est propriétaire, même si on n'occupe pas, il faut payer, c'est ça, la taxe foncière.
Et ça vous permet de pouvoir en fait tout avoir dans le package et de ne pas débourser d'argent tous les mois.
Et je rappelle pour finir, on le dit souvent dans cette émission, mais j'aime bien le rappeler. L'immobilier, c'est le seul placement pour lequel on peut s'endetter, on peut aller voir son banquier pour qu'il nous prête de l'argent pour investir. On peut pas faire ça pour les marchés
financiers. Elle adore ce slogan.
J'adore le dire parce que c'est non, mais c'est vrai. Il faut que les gens s'endettent pour devenir propriétaire.
Et en plus de ça, il y a un point quand même qui est assez important, c'est qu'un banquier, quand il voit que le produit tourne, il peut vous laisser l'opportunité de pouvoir refaire un investissement dans le futur et de capitaliser davantage.
Voilà, mais c'est important de le dire.
C'est important quand même de le dire.
Merci beaucoup, j'allais dire Maurice.
Voilà. C'est pas grave, on m'appelle souvent Maurice.
Appelez-moi Georges. Voilà, Michael Abitbol, patron de Maurice Immobilier, que vous retrouvez bien sûr sur Internet. Merci infiniment d'être venu sur le plateau de Parlons Immo. Voilà, c'est la fin de notre émission. On va se retrouver samedi prochain. Mais si vous avez loupé l'émission aujourd'hui, eh bien vous pouvez la retrouver à midi ce mardi sur Radio Immo. À suivre l'excellent Alain Marty avec son émission Invino. Ça tombe bien, si vous êtes à table, vous allez pouvoir parler de vin et de dégustation. Pour nous, on va se retrouver samedi prochain dès 13h pour parler de votre immobilier. Cette semaine, prenez soin de vous s'il pleut et surtout couvrez-vous.
Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.